VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est midi à Kinshasa, 11h01 universel. Bonjour à tous. Les insurgés islamistes Chebab ont attaqué aujourd'hui un camp de l'armée éthiopienne dans le centre de la Somalie et affirmé avoir tué plus de 60 soldats appartenant à la mission de l'Union africaine dans le pays. L'AMISOM a de son côté confirmé que l'attaque avait bel et bien eu lieu, soutenant qu'elle avait été cependant repoussée par l'armée éthiopienne avec l'aide de l'armée somalienne. Étienne Tshisekedi tente de convaincre l'opposition de la RDC à aller au dialogue. L'opposant historique congolais a lancé cet appel à l'ouverture du conclave qui se tient depuis hier à Bruxelles à son initiative. Mais il pose en même temps quelques conditions. Le point tout de suite avec Eddie Sango.
Étienne Tshisekedi a rappelé avoir exigé que les dialogues se tiennent sous la médiation de la communauté internationale, des exigences qui expliquent les hésitations constatées jusqu'ici. Selon le chef de l'UDPS, les facilitateurs Edem Kodjo devraient être assistés par 4 délégués des Nations Unies, de l'Union Européenne, des États-Unis et de l'Organisation de la Francophonie. Les dialogues devraient aussi, selon Tshisekedi, être précédés par la libération des prisonniers politiques. L'absence des Vital Kamerhe et du MLC de Jean-Pierre Bemba sont très remarquables à ces assises de 2 jours. Une bonne partie de l'opposition refuse de prendre part au dialogue, accusant M. Kabila de vouloir prolonger son mandat alors que la Constitution les lui interdit.
Au moins 18 Centrafricains auraient été tués par le casque bleu congolais en mission en République centrafricaine entre décembre 2013 et juin 2015. C'est du moins ce qui ressort d'un rapport publié mardi par Human Rights Watch. Comment faire cesser les exactions des casques bleus? La réponse de Philippe Bolopion, il est le directeur de Human Rights Watch auprès des Nations Unies.
La meilleure façon de mettre un terme à ces exactions, c'est de faire un exemple des soldats qui sont rendus coupables de ce crime particulièrement odieux. L'ONU peut faire toutes les circulaires qu'elle veut, elle peut promettre d'avoir une tolérance zéro pour ce genre d'exaction. Elle peut faire des rapports autant qu'elle le veut. Tant que des soldats pourront en toute impunité commettre ces crimes et ne pas être inquiétés ou être simplement renvoyés chez eux, eh bien, cela montre à tous les autres soldats qui restent déployés dans des pays en crise qu'eux-mêmes peuvent commettre ces crimes sans avoir à craindre de conséquences.
Philippe Bolopion, directeur de Human Rights Watch auprès des Nations Unies. Sous l'égide de l'ONU-SIDA, les 193 pays membres des Nations Unies sont réunis à New York du 8 au 10 juin pour la conférence annuelle de lutte contre le SIDA. Si l'épidémie est en déclin depuis 10 ans, il faut toutefois intensifier les efforts dans les 5 années à venir pour tenter de mettre fin à l'épidémie d'ici 2030. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
Dès l'ouverture de la conférence, les pays membres se sont engagés à réduire le nombre de nouvelles personnes infectées par le virus chaque année. L'objectif, diminuer les 2,1 millions de nouvelles infections en 2015 à moins de 500 000 en 2020. Une déclaration faite malgré les réserves émises par la Russie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et l'Iran notamment. Ces pays reprochent à l'ONU-SIDA de trop concentrer leur attention sur certaines populations à risque, comme les homosexuels, les consommateurs de drogue par injection ou les prisonniers. Selon le directeur de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, il faut utiliser cette déclaration pour accélérer et pour atteindre les personnes qui restent dans l'ombre. Ces personnes qui ne se font pas détecter ou soigner par peur de la discrimination et de la stigmatisation. Malgré des progrès, l'épidémie est loin d'être jugulée. Il y a toujours 36,7 millions de personnes dans le monde atteintes du sida, dont la plupart en Afrique subsaharienne.
Au Soudan, du théâtre pour sensibiliser aux dangers de l'immigration clandestine, la première représentation de la pièce « Le bateau de la mort » mis en scène par Maher Saad a eu lieu à l'ambassade d'Éthiopie à Khartoum. L'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, qui a subventionné la pièce de théâtre, souligne que le Soudan est un point de passage important pour ces migrants. Sur une musique poignante, cette pièce de 45 minutes se termine par la mort des migrants dans le naufrage de leur embarcation. Avant de monter à bord, ces hommes et ces femmes ont dû négocier avec un passeur qui a abusé d'eux et les a battus.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
En Irak, au moins 18 personnes sont mortes et 45 ont été blessées ce jeudi dans deux attentats à la voiture piégée près d'une base militaire et d'un marché dans la région de Bagdad, selon la police. Il n'y a pas eu de revendication pour le moment, mais le groupe djihadiste État islamique a revendiqué pratiquement tous les attentats perpétrés ces derniers mois sous pression face aux offensives des forces pro-gouvernementales irakiennes contre les zones qu'elles contrôlent, notamment à Fallujah, à 50 km de la capitale irakienne. L'organisation djihadiste a riposté récemment avec de nombreux attentats sanglants. Le procès de deux Californiens accusés d'avoir conspiré pour rejoindre les combattants de l'organisation radicale islamiste État islamique en Syrie s'est ouvert hier aux États-Unis. Nader El-Uzael et Mouanad Badawi, tous âgés de 25 ans et originaires d'Anaheim, près de Los Angeles, dans le sud-ouest des États-Unis, ont été arrêtés en mai l'an dernier par les agents fédéraux quand El-Uzael s'apprêtait à embarquer dans un avion de Los Angeles pour voyager vers la Turquie et rejoindre l'organisation djihadiste, ont affirmé les autorités. On revient sur le continent avec un retour sur le décès de Stephen Kechi. Il fut l'entraîneur des Aigles du Mali d'avril 2008 à février 2010. Aujourd'hui, le public sportif malien garde de lui le souvenir d'un grand bosseur, serein, toujours prêt à servir à la Fédération malienne de football. Son décès est qualifié de grosse perte pour le football africain, car il fait partie des rares footballeurs à remporter la Coupe d'Afrique en tant que joueur puis entraîneur. Kassim Traoré est notre correspondant à Bamako.
C'est l'actuel président de la Fédération malienne de football du Mali, Baba Diarra, qui a fait venir Stephen Kechi en avril 2008. Il était chargé de l'équipe nationale. Ainsi, d'avril 2008 à février 2010, Stephen Kechi était l'entraîneur des Aigles. Siré Diallo, membre de la Fédération malienne de football.
C'est un homme très affable et très gentil. Et il était très, très, très pieux. Il était toujours à l'église.
Son bilan n'était pas reluisant après la CAN d'Angola. Une victoire, un nul et une défaite. Et le Mali fut éliminé au premier tour. Il a été remercié. Moussa Boli travaillait à l'époque au ministère des Sports comme chargé de communication.
C'est quelqu'un qui est très ouvert, qui est très franc et qui est très disponible. Donc, ce qui fait que chaque fois qu'il venait au ministère, c'était toujours pour essayer de façon collégiale comment aborder une difficulté, comment surmonter une difficulté, comment aplanir aussi souvent les différends avec la fédération. Sa malchance a été qu'il a géré l'équipe nationale du Mali à une période déjà où la fédération était dans une zone de turbulence parce qu'il a, je crois qu'il a commencé avec Salif Keita et ensuite avec une partie du mandat du défunt Amadou Nkolado Cissé du Kola.
Badra Aïdra, vice-président de l'Association des journalistes sportifs du Mali, AJSM.
On a beaucoup travaillé ensemble quand il était l'entraîneur national des Aigles du Mali. Bon, je peux dire qu'aujourd'hui, c'est une grande perte pour le football africain. Je n'ai jamais vu un entraîneur comme Kessi. Il est courtois, il est très simple, il est social. Moi, je peux dire les raisons de son départ. Ça, c'était le fait que le Mali a été éliminé dès le premier tour, lors de la CAN 2010. Donc, je pense que c'est ça les raisons. Parce qu'en matière de football aussi, il faut les résultats. On recrute un entraîneur pour faire des résultats.
Kechi était d'un commerce très facile, toujours serein et un grand bosseur. Malgré sa fin de contrat en queue de poisson, il a beaucoup aimé le Mali. Moussa Boli.
Malgré la façon dont il a quitté le Mali, il n'a jamais gardé rancune. Et on était au même hôtel à Durban, on se côtoyait, il a tenu à saluer tous les responsables. Après la victoire du Nigeria, je dirais, il avait donné des instructions fermes pour que le Nigeria ne puisse pas faire soigner d'une certaine façon à l'hôtel. Parce que nous étions dans le même hôtel. Il a demandé aux gens, on a gagné, mais vraiment, soyez fair play. Dites-vous que vous êtes avec des gens qui ont perdu et ce sont vos frères.
À la Fédération malienne de football, son décès est considéré comme une grosse perte pour le football africain. Dors en paix, Big Boss, Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et puis, l'Euro 2016 au football commence demain vendredi, mais la tension sociale n'est pas retombée en France, pays organisateur, pagaille, guérilla, non-sens. Le gouvernement français a durci le ton aujourd'hui face aux grèves multiples qui perdurent à la veille de l'ouverture, s'inquiétant ouvertement des conséquences sur l'image du pays. Avec virulence, le ministre des Sports, Patrick Kanner, a accusé les syndicats CGT Sud à la tête d'une grève de chemin de fer entrée dans son 9e jour de mener une réforme, une forme de guérilla syndicale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes et il vous sera présenté par Henri Francis pour ma part. Je vous dis bon après-midi sur le continent et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Moi, je viens de là où...